Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur Radio Galère 81.4 dans l'émission Libre Débat. Et aujourd'hui, Libre Débat vous propose d'inviter une nouvelle émission qui s'appelle Radio Renversée, qui vient de se créer durant cette drôle de période. Radio Renversée propose donc des sons de renversement qui donnent à entendre des sons symboliques, réalistes, politiques, poétiques, naturels. Et comme Libre Débat aime les renversements et qu'il est temps de renverser les choses, alors nous avons décidé de vous faire écouter une partie de l'émission. Nous avons à peu près une heure, alors que cette émission dure 2 heures. Et nous remercions donc Radio Renversée et son équipe de nous permettre le partage. Je vous souhaite une bonne écoute.
C'était un petit son de Felix Bloom, des pierres qui tombent dans un trou de mine, qu'il a enregistré et qu'il a mis en ligne, comme il fait très généreusement depuis longtemps, sur le site freesound.org. Et pourquoi donc des pierres qui tombent dans un trou de mine ?
Ouais, ouais, pourquoi des pierres qui tombent? Parce qu'on avait envie de vous faire entendre une radio renversée avec Juliette. C'est un petit peu ce qu'on s'est mis en tête, de fabriquer cette émission radio qui va être irrégulière, mais qui nous embarque dans des éboulements, dans des renversements, dans une manière peut-être d'écouter la radio, de faire de la radio pour écouter aussi.
Surtout ça, c'est que... On a décidé de s'appeler Radio Renversée parce que, pour plein de choses déjà, ouais, le renversement paraît une bonne idée politiquement actuellement. Et puis parce que, je pense qu'on se retrouve dans l'idée de faire de la radio par le fait qu'on n'en fait pas tant pour causer dans le micro que pour écouter les gens. Finalement, on est des auditrices, en fait, de radio.
Oui, avant tout.
De radio et puis des autres. Et voilà, et puis parce que aussi on va... Voilà, c'est le côté aussi à la fois très ambitieux du renversement, et puis très fragile aussi. Le renversement, c'est quand les choses se cassent la gueule, quand ça tient plus, quand c'est brouillon, et ces deux aspects... voilà.
Bidouillé.
Ces deux aspects à la fois très ambitieux, et puis très bidouillé, très marrant aussi. Nous plaisait bien, ça semblait bien définir ce qu'on veut faire avec la radio.
Et ce qu'on veut faire avec la radio aussi en ces temps confinés, où on a beaucoup à la fois de colère, on a aussi envie de faire entendre des luttes, de faire entendre des organisations, des auto-organisations, et puis aussi des choses plus poétiques, c'est aussi ouvrir, c'est vrai qu'on se retrouve à ouvrir nos fenêtres et à entendre pas mal d'oiseaux plus qu'avant, par exemple. Mais c'est cette double dimension d'écoute et de faire entendre les révoltes également.
Voilà, radicales et sensibles, enfin les deux quoi. Donner entendre des paroles radicales et des paroles sensibles. Et puis du coup, Radio Renversée est accueillie dès sa naissance par deux fantastiques radios associatives, Pinode, en DAB+, à Mulhouse sur le canal 11, à Paris sur le canal 9, et l'Écho des Garrigues à Montpellier en FM sur le 88.5, qu'on remercie chaleureusement pour leur accueil enthousiaste, et on est super contentes.
Ouais, on est super contente et donc on peut être entendu, comme tu le disais Juliette, grâce à Pinot dans Antivirus, également le programme Antivirus et l'Écho des Garrigues, on est super ravis.
Magnifique programme de déconfinement des imaginaires sonores et politiques sur Pinot depuis le début du confinement quasiment.
Carrément.
Voilà. Et donc, dans cette émission, eh ben, on va avoir à la fois des entretiens, des créations sonores, des lectures. Et on va commencer, c'est peut-être toi qui vas présenter, Aude, puisque c'est toi qui as travaillé là-dessus.
Oui, en fait, moi, j'avais été interpellée par un article sur, sur la situation dans les foyers. C'est un article qui était sorti dans le Bondi Blog, donc en ligne. Hein. Ça s'appelait « Dans les foyers, les Shibani meurent à huis clos ». Et donc, on s'est demandé un peu comment ça se... Parce que c'est assez catastrophique, la situation. Comment ça s'organise aussi. Et on va commencer par faire écouter, par faire entendre une auto-enquête qui a été faite en vidéo par les Gilets Noirs en lutte. Et les Gilets Noirs, donc, qui sont en lutte depuis un certain moment en défendant notamment les migrants sans papier, en dénonçant leurs conditions. Et là, avec le coronavirus, les Gilets Noirs sont toujours là. Et cette auto-enquête, qui dure une dizaine de minutes, on peut l'écouter aussi sur ActaZone, et on va pouvoir l'entendre tout de suite.
Bonjour, je vais vous donner un petit témoignage de ce qui se passe à l'intérieur des foyers, depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, j'ai fait partie d'un mouvement, un collectif qui s'appelle la collectif La Chapelle Debout et un mouvement qui s'appelle les Gilets Noirs. Les Gilets Noirs, c'est un mouvement qui a été créé pour venir en aide à des personnes sans papier, des gens qui dorment dans la rue, des réfugiés et tout ça. Depuis le début du mouvement jusqu'à aujourd'hui, l'intérieur des foyers est devenu explosif. Le système d'hygiène. Les gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le confinement. Les consignes ne sont pas données par les gérants des foyers ou mal données même. Parce que 80% des personnes qui vivent dans les foyers ne parlent pas français. Même le peu qui parle n'arrive pas à écrire ni lire. On a trouvé que les gérants des foyers ont fait juste quelques affiches sans explication et les gens ne comprennent pas ce qui est écrit. Et ils refusent toute parole avec les gens. Ils ne parlent avec personne. Ils ne donnent pas des explications. Ils ne viennent que deux fois par semaine dans les foyers, deux ou trois heures par jour, et ils retournent. Ils restent enfermés dans leur bureau, ils ne donnent pas des explications aux personnes qui sont à l'intérieur. Ça, c'est un grave problème. C'est un problème qui va donner beaucoup plus de conséquences. Parce qu'à l'intérieur des foyers, chaque foyer, il y a à peu près 500 ou 600 chambres. Dans les chambres, il y a à peu près 5, 6, 7, jusqu'à 8 personnes à l'intérieur. Et il y a tout âge aussi. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Tout est mélangé à l'intérieur. Les distances ne sont pas respectées. Les gérants des foyers ne donnent pas des précautions. Qu'est-ce que tu dois faire en cas de maladie, s'il y a une signe du virus, qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils ne donnent pas d'explication. Du coup, tout le monde est mélangé à l'intérieur du foyer. Les gens font des va-et-vient partout, ils font n'importe quoi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste de fermer les cuisines et les salles de prière, les salles de réunion, c'est tout. À part ça, ils n'ont rien fait d'autre. Et ces gens... Même à l'intérieur des foyers, ils ne sont pas nettoyés. Si toi-même, tu ne te débrouilles pas, eh bien, il n'y a pas de désinfection à l'intérieur des foyers. C'est pourquoi les Gilets Noirs ont essayé de venir en aide à ces personnes qui sont à l'intérieur des foyers. Essayer avec les camarades avec lesquels ils s'organisent depuis des années, pour leur expliquer ce que c'est le confinement, en cas de maladie, ce qu'ils doivent faire, quels sont les signes du maladie. Tout ça, on explique ça à tous nos camarades qui sont à l'intérieur des foyers. Il y a à peu près une quarantaine de foyers en Île-de-France. On essaie tous les jours à donner des bonnes informations aux camarades qui sont à l'intérieur pour éviter une contamination. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que la plupart de ces gens-là ne travaillent plus. Ceux qui ont des papiers, qui travaillaient avant le confinement, la plupart de ces gens-là ne travaillent plus. Ceux qui n'avaient pas de papiers, qui essayaient d'avoir un peu avant le confinement, depuis le début du confinement, ces personnes-là n'ont plus rien du tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là n'ont plus quelque chose à manger. Ils ont faim. Ils n'ont plus rien du tout. Même pour pouvoir payer leur loyer, ces gens-là n'en peuvent plus. Ces gens-là ne peuvent plus payer le loyer. C'est devenu un grave problème pour ces personnes-là. Ces personnes-là sont à l'intérieur, même le peu d'argent qu'ils ont, ils ne peuvent pas sortir pour aller acheter quelque chose à manger. Pourquoi? Parce que pour sortir, il faut une attestation de dérogation et une pièce d'identité en cas de contrôle. L'attestation, tu expliques dedans ce que tu vas faire à l'extérieur du foyer. Et une pièce d'identité pour présenter à la police. Mais si tu n'as pas de papier et tu as une attestation de dérogation, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que si tu présentes ton attestation, on te demande une pièce d'identité, toi tu es un sans-papier, ce n'est pas l'amende qui leur fait peur. C'est d'être arrêté par la police, aller enfermer dans un centre de rétention pour aggraver encore la situation. Parce que tout le monde sait comment ça se passe actuellement dans les centres de rétention. Il y a beaucoup de contamination à l'intérieur des centres de rétention et les centres de rétention sont toujours ouverts. Tous les jours, il y a des arrestations. Et ça aggrave encore la situation. Ces gens-là ont peur. Il y a des gens, depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui, ils sont enfermés dans le foyer, ils ne sortent pas. Ils n'ont rien, sauf des fois, quand on se déplace pour aller dans ce foyer, essayer de leur donner un peu pour qu'ils puissent s'en sortir. C'est-à-dire un peu de nourriture, où on achète des savons, des eaux de Javel, pour essayer de désinfecter à l'intérieur des foyers, pour que les gens puissent vivre un peu mieux. On amène des médicaments pour en cas de maux de tête ou des trucs comme ça, pour que les gens puissent se sentir un peu mieux, et leur expliquer aussi en cas de signes du virus qu'ils nous contactent pour voir ce qu'on peut faire, comment on doit faire pour gérer la situation, c'est-à-dire éviter d'autres contaminations à l'intérieur de cette foyer et essayer aussi de voir comment on va faire pour monter cette maladie-là vers un hôpital qui va le prendre en charge. Et il y a aussi beaucoup de questions qui se posent. Les gens qui ont des papiers, ça va un peu mieux pour eux parce qu'eux, ils ont une carte vitale. Mais ceux qui n'ont pas de papier, il y en a qui ont des aides médicales d'État ou le CMI. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont rien de tout ça. Et on ne sait jamais. Si une personne parmi ces gens-là tombe malade demain, tu n'as ni carte vitale, ni l'aide médicale d'État, ni CMI, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, personne ne sait. L'appel que les gilets noirs ont à lancer, c'est que nous, on fait tout notre possible pour que nos camarades puissent se sentir mieux à l'intérieur de leur foyer, pour qu'ils puissent circuler librement sans avoir peur. L'appel qu'on a, c'est de demander à l'État pendant ces moments de confinement où tout le monde a peur de faire barrage face à l'épidémie. Faire barrage face à cette maladie qui ne connaît pas de couleur, ni de pays, qui n'a ni passeport, ni pièce d'identité, qui est invisible, qui peut attaquer tout le monde, toute personne dans ce pays, dans le monde entier. On se bat tous les jours pour avoir les papiers pour tout le monde. Éviter la violence policière. Parce qu'il y a des foyers aussi où la police est constamment à l'extérieur du foyer, attendre les gens devant le foyer, juste pour les arrêter en cas de sortir, les contrôler. Si tu as des papiers, on te laisse partir. Si tu n'as pas de papiers, on t'embarque pour aller t'enfermer dans une centre de rétention. Il y a des gens qui ont peur de sortir, et même ceux qui veulent sortir pour aller acheter une baguette à l'extérieur, et ils ont peur de tomber nez à nez avec la police. Parce que la police les guette. Ça, c'est une situation qu'on n'accepte pas dans ces moments de confinement. Cet moment de solidarité dans le monde entier, ce n'est pas que la France, c'est dans le monde entier que tout le monde fait barrage face à cette épidémie. Je vous remercie.
Donc on vient d'entendre une auto-enquête des Gilets Noirs qui date du 22 avril et qu'on retrouve sur ActaZone. Donc les Gilets Noirs, c'est un mouvement qui s'était mis en place dès le novembre 2018, en même temps que les Gilets jaunes, pour lutter contre l'exploitation et les violences systémiques contre les immigrés en France. Et ici, on les a entendus s'organiser et s'auto-défendre avec la situation sanitaire qui touche particulièrement les foyers de migrants. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de foyers. Il y en a environ 140 en France et il y en a une grande partie en Île-de-France. Et ça fait partie des endroits qui sont évidemment particulièrement touchés par la crise sanitaire.
Sur le site du Bondi Blog, d'ailleurs, il y avait eu un article sur le fait que les Chibanis, c'est-à-dire essentiellement des hommes âgés d'origine maghrébine, meurent en silence dans les foyers actuellement, parce que justement, pour tout ce que dénonçait ce gilet noir, quoi. Un problème d'information, un problème d'accès aux soins, un problème de libre circulation qui est aggravé, en fait, les concernant. Et voilà.
Et avec en plus un isolement qui est accru. Et également des soins qui seraient nécessaires en temps normal pour des maladies autres que le coronavirus et qui ne sont pas pris en compte. Et pour continuer sur cette lancée, je me suis entretenue avec un membre du collectif Barras. Donc le collectif Barras est un collectif qui s'est créé en 2013. Et ce sont des sans-papiers. À l'origine, ils s'étaient réunis devant le foyer Barras. C'est un foyer, un très très gros foyer que beaucoup de gens qui habitent à Montreuil connaissent. Donc Montreuil dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Ce foyer donc est au niveau du métro Robespierre. Il est aujourd'hui, la dernière fois que j'étais passée devant, il était démoli parce qu'il était déjà dans un état d'insalubrité. Et on sait d'ailleurs que c'est un vrai souci parce que à partir du moment où on démolit, c'est aussi un moyen d'expulser les personnes qui sont dans les foyers et avec une difficulté pour les reloger. Toujours est-il qu'en 2013, ces sans-papiers n'avaient pas de place dans ce foyer, donc ils n'avaient pas d'hébergement, parce qu'ils n'avaient, me l'explique ce membre du collectif, pas de famille, pas de résidents à l'intérieur, donc ils étaient dehors, pas d'accès donc à des douches. Donc ils ont ouvert un premier squat à Bagnolet en novembre 2013. C'est un ancien bâtiment de 4 étages qui appartenait à un privé. Ils ont tenu 11 mois avant d'être expulsés, puis ils ont réouvert l'ancien pôle emploi de Bagnolet pendant 3 ans, avant d'être expulsé de nouveau. Puis un squat au Lila, donc toujours dans le 93, toujours en Seine-Saint-Denis, pendant un an. Et maintenant, ils sont dans l'ancien, ils ont squatté donc l'ancienne assurance maladie de Bagnolet, et qui est aujourd'hui, ils ont obtenu un bail, parce que cette ancienne assurance maladie a été rachetée par le bailleur social OPH de Bagnolet, et ils ont un bail, mais tout frais, tout récent, depuis 3 mois, sauf qu'évidemment le confinement est arrivé. Et donc on va écouter cet entretien qui a été réalisé samedi 25 avril avec un des membres du collectif.
Le Bara, l'association Bara en fait. Oui, on est à Bagnolet dans l'ancienne sécurité sociale de Bagnolet, qu'on a squatté au début, ça fait presque 2 ans qu'on y habite. Maintenant, on est passé sur le bail. Donc on a un loyer à payer chaque fin de mois.
Comment ça se passe avec le confinement? Est-ce que j'imagine que ça a engendré des difficultés déjà, le fait de ne plus avoir de travail?
Ouais, ça devient plus en plus compliqué pour nous, pour tous les gens qui se trouvent dans les situations de sans-papiers, tout ça. Parce que quand vous regardez, madame, on a l'habitude de travailler à la fin du mois, on attend quelque chose. Voilà, et ça donne toujours d'envie de repartir dans le travail. Le matin, à 5 heures, tu te lèves, tu es dans le train, tu travailles à 40 km, à 50 km de Paris. C'est pas un problème. Mais si on va nous dire de rester à la maison, on n'a rien à bouffer, on n'a rien à manger, on n'entend pas l'argent, on sait que l'argent va pas tomber, ça risque de ramener les gens dans la détresse, pas possible. On ne le vit pas ça de bien, mais si tu n'as rien pour manger, tu vas essayer de trouver quelque chose à manger, madame. Et moi, c'est ce que je pense personnellement. Voilà, le seul niveau qui est arrivé au niveau du confinement, parce que nous travaillons en tant que le travail noir. On n'a pas de papiers pour travailler officiellement. Voilà, le chômage partiel, on n'en parle pas. On est payé le fonction du jour qu'on a travaillé. Donc nous, on a ces problèmes-là pour l'instant, même le mois dernier, on a même appelé le bailleur pour lui expliquer nos cas, que s'il faut payer ces sommes-là, le mois-là, on n'a pas dans nos comptes. On a demandé aux habitants, les habitants déjà, il y a pas mal qui ont les difficultés de se nourrir déjà. Donc si on va leur dire de payer déjà le loyer, on sait qu'on n'a pas, nous, on n'a pas.
Comment réagit le bailleur?
Bon, le bailleur, on a eu des retours au niveau des bailleurs qu'ils ont un plan comme quoi ça va être réduit le mois dernier. Mais il faut s'attendre que trop tard, on va payer quelque chose. Donc on demande la suspension de loyer à ces périodes-là de confinement. Et je pense que ça va même pas être seulement le confinement. Après, si on sort du confinement pour commencer à travailler, au bout de après un mois de travail, c'est à partir de là que nous on peut commencer à payer. Mais si on a les dettes derrière tous les mois qui sont passés, pour nous ça va être compliqué parce que c'est 2 mois de cumul plus un mois de travail qu'on va faire. Donc ça va être 3 mois. Si on dit vraiment qu'on peut être payé, on peut commencer à payer ça parce que non, en fait on travaille pour un salaire de misère totale. Hein. Parfois, tu peux travailler. On travaille des 30 jours. Le patron nous dit, vous ne pouvez pas continuer parce que là, j'ai pas l'argent pour continuer à payer tous ceux qui sont là. Donc voilà, si tu te trouves dans ces parties-là, ça fait que un mois encore, tu vas attendre avant que tu sois payé pour reprendre encore le travail. Parce qu'on ne peut pas refuser totalement le peu qu'on gagne. C'est mieux que rien. Voilà, le travail de sans-papiers de ces pays-là, c'est hyper compliqué. Parfois, on part du travail au moment du confinement, c'est arrivé. Le confinement même a commencé, il y avait 3 personnes de chez nous qui étaient déjà au centre de rétention. Et tu pars au travail, tu te fais contrôler, tu n'as pas de papiers, et tu finis ta journée au centre de rétention. Parfois, c'est le cas. Sauf que nous, on est là, ça fait pas mal les années déjà. Hein. Bon. Les années ici, ça compte pas trop, mais pour nous, il faut que ça compte au niveau de l'État parce que on est là, ça fait 8 ans presque. Moi, perso, je suis là, ça fait plus de 8 ans déjà. Sur le sol français, je suis arrivé fin 2012.
C'est quoi les secteurs dans lesquels vous travaillez?
Franchement, c'est de différents secteurs. Parmi nous, il y a des mécaniciens, il y a des plombeurs, il y a des maçons, Il y a beaucoup de travail dans le restauration en tant que la plongeur, je ne sais pas comment dire. Moi, perso, je travaille dans l'hôtellerie. Je fais le nettoyage, je fais le comptage des bras, tout ça. Bon, on est payé au niveau des chambres, on n'est pas payé par mois hein, à l'hôtel. En fonction des chambres qu'on arrive à faire par mois, c'est en fonction de ça on va être payé. Mais le principal, c'est qu'il faut qu'on ait de quoi à commencer à payer le loyer, en fait. On est dans l'association, on est à 150, mais dans la maison où on habite, ces maisons-là, il y a 82 personnes signalées dedans. C'est non figure dans le contrat. On ne peut pas demander le chômage partiel. On ne peut pas. En ce moment-là, on ne peut rien faire dans ce pays-là. Donc, le mieux, il faut que tu trouves quelque chose à faire. Même là, si malgré qu'il y a la maladie, moi, j'essaye de sortir à pouvoir essayer de trouver une autre chose à faire.
Concrètement, comment ça se passe pendant le confinement, vous? J'imagine que c'est très compliqué pour sortir.
Voilà, pour sortir dans le lieu où on habite, on est toujours oublié par ces points-là parce qu'il faut bien sûr faire l'attestation qui accompagne avec un papier en cours de validité. Sauf que les sans-papiers, on a peut-être le passeport de nos pays, il faut pas non plus que tu sois arrêté avec ça. Donc, ces points-là, on n'a pas de solution en tant qu'un sans-papier, montrer une attestation de sortie d'aller faire ses courses avec une pièce d'identité valable, c'est compliqué. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution pour ça. On trouve pas de solution pour ça. On n'a pas de possibilité de sortie avec l'attestation possible, avec une pièce d'identité valable dessus. Voilà, c'est un gros problème parce qu'on va pas prendre le. Moi, personnellement, je prends pas le passeport malien. À main sur l'attestation de sortie avec. C'est pas fait pour la police. Non, il faut pas sortir avec le passeport. Donc, c'est à peu près compliqué cette histoire. Oui. Oui, soit si tu sors, tu fais pas l'attestation, tu sors comme ça. Du coup, ça fait que même là, je suis sorti pour aller acheter du pain. Mais voilà, je n'ai pas fait d'attestation. Hein.
Ouais, donc ça fait que c'est un peu stressant pour vous.
Oui, parce qu'au début on avait commencé, et même là il y en a qui le font, qui sortent tout court avec l'attestation. Mais bon, l'attestation qui n'est pas accompagnée par un papier, on n'a jamais entendu que c'était valable. Et du coup, que c'est valable pour que ça soit valable, il faut avoir une pièce d'identité avec. Comment on fait? En fait, on sort comme ça à l'abri. Voilà, si jamais on croise des policiers, bah, c'est malsain, quoi. Donc, c'est comme toujours au niveau des sans-papiers. Hein. Si tu peux faire des années sans que tu te fais contrôler, mais comme avec ces contrôles-là, maintenant, c'est beaucoup plus risqué.
Et dans le collectif Barra, vous dites, pour le moment, vous n'avez pas eu de problème avec la police depuis le confinement?
À quelques personnes qui ont rencontré la police au niveau de contrôle de pièces, comment dire, l'attestation de sortie. Oui, il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes, qui ont eu des amendes peut-être, de 135 euros. Mais à part ça, on n'a pas eu de problème au niveau du collectif dans la maison. Hein. Non, 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 on n'a rien.
Vous disiez c'est compliqué non seulement de payer le loyer, mais en plus de payer pour manger. Comment vous vous organisez alors? Comment vous faites?
Voilà. Et au niveau de l'organisation, en gros, c'est chaque chambre où soit tu collabores avec qui tu sais que tu peux on peut s'entendre. Donc le cantine tourne comme ça. Le cantine n'est pas 82 personnes. Hein. Ça, c'est énorme. Ça, c'est gamelle déjà, il faut le trouver.
C'est-à-dire que dans chaque chambre, vous vous organisez?
Pour se nourrir, oui. Qui font le repas de chaque chambre, qui tourne entre eux. Si vous êtes 3, 4, 5 dans la chambre, comme il y a de grands espaces, donc on va faire chaque petit groupe à 5 à 6 personnes qui vont faire la cuisine ensemble et bien, qui vont manger dans le même plat. Donc on est toujours comme ça.
Mais ça veut dire qu'il y a une personne d'entre vous, vous tournez pour aller chercher la nourriture?
Ouais. Et puis aussi, même hier, j'ai vu que si avec quelques personnes qui nous ont amené pas mal de choses. Hein. Il y a aussi des associations ou aussi des gens qui font des équipes au niveau de la Rungis qui nous amènent aussi des légumes et des fruits, du riz et d'huile, c'est-à-dire avec ce qu'on peut vivre quelques jours, quoi. Donc ça nous dépend aussi.
Ça dépanne. Ok.
Ouais, mais pour une fois de plus, pour nous, c'est pas l'objectif. On n'est pas là pour faire le manière non plus.
Vous n'êtes pas là pour faire quoi, vous disiez?
La manche. Atteignez le main aux gens. Il faut que. Voilà, non. On est là aussi pour vivre avec ce qu'on fait. Sauf qu'il y en a qui ont travaillé pendant 6-7 ans. Ils n'ont pas de chômage partiel. Ils pourront pas l'avoir. Donc, le patron, voilà, c'est toujours ça dans le cadre de sans-papiers. Donc, en fait, on n'a pas une porte quelque part. Partout, c'est fermé. Partout, c'est fermé pour les sans-papiers dans ces pays-là, en ces périodes-là. De plus, il y a toujours des problèmes.
Parce que non seulement c'est la condition de sans-papiers qui fait que déjà c'est étouffant de vivre dans cette situation, et là c'est redoublé, quoi. C'est encore pire avec le confinement.
Oh oui, là c'est encore beaucoup, beaucoup plus dur que celui d'avant, hein. Parce que là, c'est il faut rester à la maison. Non seulement il faut rester à la maison sans ressources, c'est le plus compliqué, c'est ça. C'est le plus compliqué, c'est ça. Ça arrive qu'il y a quelques patrons qui nous appellent pour 1 ou 2 jours de travail, et puis voilà. Comment on fait? On est obligé d'aller.
Ouais, c'est compliqué.
Oui.
Et vous n'avez toujours pas eu de régularisation malgré toutes ces années de présence sur le sol français.
Ah ben jamais, 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 jamais. Ça fait quasiment 1 an et demi que je cherche le rendez-vous seulement dans le 93 pour essayer de demander une régularisation. On n'a pas où trouver de. Il n'y a pas possible d'avoir un nouveau rendez-vous dans le préfecture de 93.
À Bobigny, c'est ça?
Oui, à Bobigny, le préfet, et surtout le préfet de 93, il est tellement différent des autres préfets. Parce que on connaît des gens qui sont dans les autres départements qui arrivent à se faire régulariser par rapport à leur travail. La difficulté dans le 93, elle est spéciale parce que le 93, il refuse totalement de nouveau intégration. Et le préfet nous a dit très clairement, lors d'une réunion qu'on a fait avec eux, comme quoi il n'a besoin d'aucun étranger dans le 93, et qu'il faut qu'on aille ailleurs, à où on va partir. Parce que depuis que nous, on est arrivé, on est dans le 93. On est toujours resté entre Montreuil et Bagnolet et Lila. On a toujours squatté dans ces secteurs-là. En lui expliquant que nous, nos souhaits, c'est pas pour se faire plaisir de squatter les maisons des gens, mais on aimerait avoir un toit. Personne n'est fait pour pouvoir rester dehors. Voilà. Bon, voilà, c'était ça le slogan de Deby. Comme on a eu déjà le toit, sauf que le confinement va commencer à nous mettre dans le problème, parce que c'est un bail de 3 ans qui ça allait être renouvelable chaque an. Donc on a signé ce bail-là, même pas 3 mois, il y a eu le confinement qui a commencé, parce que c'était février. Ouais, tu sais, c'est le premier bail déjà. Oui, c'est le premier. Donc on n'a pas tellement de. On n'a pas la confiance des bailleurs pour l'instant. Et on est arrivé à ces problèmes-là. Moi, c'est ce que je dirais aussi, si l'État français pouvait vraiment regarder avec une bienveillance au niveau des sans-papiers, ça serait pas mal, hein. Franchement, faut pas laisser les gens dans la merde comme ça, comme si c'était merde possible. Mais c'est pas possible, ça. Regarde déjà l'histoire de la Portugal qui arrive à régulariser ses sans-papiers, la Portugal, qui peut faire ça, la France aussi peut faire, pareil, même plus que ça. Même plus que ça, même ces jours-ci, on attend que l'Italie va faire, essaye aussi de faire un peu plus, quoi. Donc on attend toujours la France, et ils font la sourmière, je sais pas quoi, ils ne veulent pas entendre. C'est ça le problème de la France. Mais surtout quand on attend la loi de la France, un pays de droit, de légalité, fraternité, mais où? Dans le tiroir. La France, quand même, elle est beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus capables de nous aider, de faire la même chose que la Portugal. Ça, même si c'est temporaire, après le confinement, qui nous donne le permis de séjour pour une période définie, ceux qui peuvent avoir le contrat de travail pendant ce temps-là et qui serait renouvelable, et même après, ceux qui n'auront pas, qui n'ont pas eu de contrat après, et qui leur prolongent encore pour leur donner une autre chance encore. C'est tout à fait. Moi, je pense que c'est ça. C'est avec ça qu'on peut, on peut pouvoir s'en sortir. Même à la préfecture, on l'a dit ça avec notre avocate qui a expliqué ça plusieurs fois au préfet. Le préfet ne voulait vraiment pas comprendre ce qu'on dit. Voilà. Donc, il l'a dit, il est là juste pour les expulser du sans-papiers, mais pas pour les aider. Donc, vraiment, on a une vie vraiment qui n'a pas d'avenir. La situation que nous traversons, ça veut dire qu'on n'a pas d'avenir. Parce qu'on est dans un pays avec lequel on travaille depuis des années. Et le patron nous traite d'une manière comme, voilà, en gros, tu travailles. Mais même si tu es malade, le patron, il te dit quoi? Il te dit, bah, tu dis pas que tu étais ici chez moi. Tu le dis pas. Parce que toi, tu souhaites toujours à ton retour, tes santé te permet de retrouver un travail encore. Donc, c'est capable, on est capable de repartir vers ces patrons-là encore. On essaye de se survivre, en fait. C'est parce que l'État nous donne le dos. Ils le savent très bien avec qui on travaille. Ils le savent, l'État, ils le savent. Mais ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à leur dire. Mais pour l'instant, on n'est pas venu ici pour eux. Mais quoi que ce soit, hors de travail, pour nous. On est là juste pour le travail.
Donc c'était un entretien avec un membre du collectif Barras, donc qui est situé à Bagnolet, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. C'est un entretien qui a été réalisé le 25 avril. Et juste quand même pour deux petites précisions, donc effectivement, la difficulté, il a bien évoqué donc cette question de leur revendication de suspension des loyers, qui serait un minimum pour tous ceux et celles qui ont des bails actuellement.
Et que la ville de Bobigny est en train d'étudier d'ailleurs en ce moment.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et la ville de Bobigny, alors sans aucune garantie que la procédure arrive à son terme, parce qu'il y a divers interlocuteurs qui ne sont pas forcément d'aussi bonne volonté. Ouais. Mais en tout cas, la ville de Bobigny a lancé une procédure pour annuler le loyer de 4000 foyers les plus pauvres dans le parc de sa ville, quoi.
Donc en espérant que ce soit pris en compte pour aussi le collectif Barras ou tous ceux et celles qui sont dans les foyers. Et une autre précision aussi que je voulais faire, effectivement, il a parlé de la difficulté en Seine-Saint-Denis d'être régularisé. Et c'est quand même une aberration, enfin, je pense qu'on le sait déjà depuis quelques années, mais les rendez-vous de la préfecture, c'est très très compliqué, voire impossible en fait, de prendre rendez-vous pour la préfecture de Bobigny. Normalement, on va en fait en ligne, tout est dématérialisé, donc il faut prendre un rendez-vous sur Internet. Et on peut essayer, hein, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de rendez-vous disponible. On peut essayer de jour comme de nuit. Donc, ça tourne sur un marché noir. Pour avoir un rendez-vous, donc faut payer entre 180 euros. Enfin, actuellement, les derniers chiffres que j'avais, c'est 180 euros pour avoir un rendez-vous qui est plus ou moins valable. C'est-à-dire que parfois, ça marche et parfois, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous pointez à la préfecture avec ce rendez-vous qui a été payé. Et évidemment, encore une fois, c'est du marché noir. Et on va vous dire, non, c'est un rendez-vous pour mineurs et vous êtes majeur et on vous renvoie comme ça. En fait, cette procédure invisibilise les files d'attente qu'il y avait avant. Et c'est aussi un moyen de, avouer ou pas, mais de limiter l'accès des étrangers pour déposer tout simplement leur dossier déjà. Donc ça, c'est une chose à noter dans le 93. Et Juliette, toi, tu voulais rebondir aussi sur l'évocation...
Du Portugal, ouais.
Du Portugal.
Parce qu'il le dit rapidement, mais de fait, il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix que la France pendant la crise du coronavirus, notamment le Portugal qui a procédé, c'est ce qu'il évoquait, à une régularisation temporaire, il le dit, il insiste bien dessus aussi, hein, temporaire de tous les sans-papiers du pays, pour qu'ils et elles puissent avoir une bonne couverture de santé pendant cette période-là. C'est d'ailleurs une revendication de toutes les associations de défense des immigrés, en fait, de dire que la santé pour tous et toutes, en fait, ça, c'est bon pour toutes et tous, parce que plus une politique de santé est universelle, plus elle protège l'ensemble de la population. Et si jamais elle n'en protège pas une partie, eh ben, ça met en danger non seulement cette partie, ce qui n'est pas acceptable, mais aussi l'ensemble qui croit être protégé. Enfin, le reste, pas l'ensemble, justement, le reste qui croit être protégé et qui ne l'est pas. Et l'Allemagne aussi a procédé à des régularisations au cas par cas, en faisant appel notamment aux médecins parmi les sans-papiers, parce que en fait les sans-papiers ça regroupe des catégories sociales et professionnelles qui sont extrêmement variées, enfin en tout cas dans les pays d'origine. En France, ce sont des personnes qui sont pauvres, enfin, qui deviennent pauvres en France. Et là-dedans, il y a des médecins, enfin d'anciens médecins, des cadres, des architectes, des artistes, des ouvriers, des ouvrières. Enfin voilà, il y a toutes les catégories sociales. Et donc voilà, et la France reste pour l'instant arc-boutée sur ça. Sur sa politique de refus radical, c'est-à-dire de refus radical et d'hypocrisie, parce qu'on sait très bien que des secteurs comme le BTP ou le nettoyage s'effondrent complètement s'il n'y a plus de main-d'œuvre sans papier, quoi. Et on va maintenant écouter un témoignage d'une personne âgée qui est dans une résidence autonomie. Les résidences autonomie, elle va aborder ça dans le cours de l'entretien, mais ce sont des établissements considérés comme des établissements médico-sociaux, mais où il y a une grande autonomie, justement. Ce sont des personnes qui sont capables de se débrouiller toutes seules, et elles se retrouvent confrontées, elles et beaucoup d'autres résidentes, à un durcissement, en fait, des rapports avec le bailleur, qui est le CCAS, c'est-à-dire le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Creil. Et elle parle de la bataille, et ça va bien au-delà, en fait, de... Enfin, ça dit beaucoup de choses, en fait, cette bagarre-là, au sein de cette résidence autonomie, sur le rapport aux personnes âgées actuellement. Mais, comme vous allez entendre... Elles ont du répondant.
Allô.
Bonjour madame, je suis Juliette, c'est Farida qui m'a donné votre contact.
Voilà. Quand Farida m'a appelé, je dis ben vous pouviez pas mieux tomber, parce qu'on est en révolution contre le CCAS qui veut faire de nous des enfants et faire de nous ce qu'ils veulent. Sans explication, sans accord, rien, rien. Ils veulent qu'on soit confinés, enfermés, chacun chez soi. Ils veulent promener nos chiens, ils veulent faire nos courses, ils veulent faire de nous ce qu'ils veulent. Et nous, on est une poignée d'irréductibles à pas vouloir se laisser faire.
C'est quel type de résidence où vous êtes
C'est une résidence autonomie, un foyer logement. Effectivement dirigé par le... Enfin, dirigé. Oui, par le CCAS, mais...
Et c'est dans quelle ville?
C'est à Creil.
À Creil, d'accord. Mmh. Et donc vous avez, pour que les gens se rendent bien compte de la situation, vous avez du coup un petit appartement à vous, au sein d'une résidence plus vaste, où il y a des services mutualisés qui sont proposés?
Alors, il y a très peu de services. Il y a possibilité de prendre un repas, si on veut, et quelques animations quand c'est pas le confinement. Mmh. Alors il faut vous dire que la résidence est construite sur une côte, ça monte. Mmh. L'entrée principale, pour atteindre l'entrée principale, il faut monter.
D'accord.
Et en tournant, c'est dur. Or, il y a une porte en bas de la résidence, qui est d'accès beaucoup plus facile, mais qu'on nous a fermée. Et c'est ça qui a été à l'origine de notre levée de bouclier.
D'accord.
Parce que, moi, j'ai compris, ils ne veulent pas l'avouer, mais j'ai compris que, en interrogeant les dames qui peinent à marcher, « Oh ben non, je ne sors pas parce que c'est trop dur de revenir. » Donc, comme ça, ils obligent les gens à rester chez eux.
D'accord. Et ça, c'est depuis le début du confinement qu'ils ont fermé cette porte ?
Exactement, depuis le début du confinement. Donc, le premier jour, j'ai téléphoné au CCAS, je suis tombée sur une dame charmante qui m'a dit je vous entends bien, je comprends. On manque de personnel. Je dis, il n'y a pas besoin de personnel pour tourner une clé dans une serrure. C'est des histoires, ça. Je vais voir ce qu'on peut faire. Je n'ai jamais eu de réponse. Entre-temps, il y a eu d'autres échauffourées parce que on n'a pas compris de la même façon les consignes gouvernementales et les consignes de la ville de Creil, du CTAS. Eux prétendent que quand on se met à 4 ou 5 dans le jardin avec les chaises espacées de 2 mètres les unes des autres, c'est un rassemblement.
Oui.
Or, j'ai sous les yeux un article de journal, la VHP n'a pas imposé que les patients restent confinés dans leur chambre, ils peuvent vivre dans les espaces partagés mis à leur disposition. On nous a fermé le salon, barricadé avec une barre de fer pour qu'on, surtout qu'on ne l'ouvre pas. On nous a retiré les chaises qui étaient dans les couloirs, sur les paliers, pour pas qu'on s'y asseye et qu'on discute.
Oui, d'accord. Et vous avez fait, Farida m'a dit, vous avez fait une pétition, du coup.
J'ai organisé une pétition, j'ai fait une lettre, j'ai dit aux dames qui n'en pouvaient plus, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, je fais une lettre, on signera. Donc, j'ai fait une lettre que je peux vous lire.
Bah oui, avec plaisir.
Depuis la mise en place du confinement, vous nous avez mis en prison, d'abord par la fermeture de la porte rue Aristide Briand. Vous savez très bien que la côte est très difficile à monter pour des personnes âgées, qui plus est quand elles sont chargées de leurs courses. Vous manquez de personnel, certes, mais votre argument n'est pas valable dans la mesure où il vient quelqu'un de chez vous tous les jours et tourner la clé dans la serrure ne prend pas beaucoup de temps. J'ajoute qu'il y a quelques années, quand Christophe, c'est l'homme d'entretien qui habite la résidence, quand Christophe ne travaillait pas, c'est un résident qui avait la clé. Les consignes gouvernementales nous autorisent à sortir une heure. C'est une nécessité pour prendre l'air et pour marcher. Car à la fin du confinement, les personnes âgées n'auront peut-être pas le Covid-19, mais elles ne sauront plus marcher. Certaines commencent à déprimer sérieusement, puisque les visites sont très réglementées. Célène avait proposé une activité musicale qui plaisait beaucoup, et nous nous étions installés dehors en écartant largement les chaises pour respecter la distance d'au moins 2 mètres entre chacune. Il a fallu que 2 personnes s'en plaignent, 2 qui se sont plaintes au CCAS en disant qu'on se regroupait dehors. Il en existe toujours. Et sans aucun contrôle de votre part, cette activité a été supprimée. Ne nous parlez pas des balcons, parce qu'ils voulaient que l'animatrice nous passe de la musique dans le jardin et que chacune soit à son balcon. La résidence, elle est faite de telle façon qu'il y a des balcons aux 4 points cardinaux. Donc, il y en a même qui donnent sur le parking. Il y en a forcément qui rateraient l'animation. C'est pas possible. Alors, je dis, la géographie des lieux s'y oppose. Dans la foulée, on nous a retiré toutes les chaises qui étaient sur les paliers pour éviter certainement qu'on reprenne son souffle en rentrant de promenade avant de remonter dans les étages. En dernier lieu, on a pris la décision de fermer strictement les portes toutes feu, certes, mais qu'il valait mieux laisser ouvertes en ce moment pour éviter de toucher les poignées. Pour aller du bâtiment sud, où j'habite moi, jusqu'à la poubelle, il faut ouvrir 5 portes. Que faut-il craindre le plus en ce moment? Le Covid-19 ou le feu, alors qu'il n'y a plus de cuisine, ni d'atelier, ni d'accès au salon. Nous sommes dans une résidence autonomie, ni un EHPAD, ni une maison de santé. Vous êtes notre bailleur, avec des avantages sociaux, certes, mais vous n'avez aucune autorité sur nous. Nous respectons les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie. Ne nous rendez pas la vie plus difficile qu'elle ne l'est actuellement, s'il vous plaît. Je vous prie d'accepter. Et voilà, et les dames ont signé, et les messieurs. Et j'ai fait une copie au maire en disant au maire qui joint la copie d'une lettre adressée aux responsables du CCAS par les résidents de Fassenda qui s'insurgent contre un abus de pouvoir et d'autorité de leur part. Voilà.
Et le maire a répondu?
Alors, pas le maire, bien sûr que non, pas le maire. La directrice du CCAS a répondu hier. Madame, vous faites état dans votre courrier en date du 10 avril dernier d'un certain nombre de griefs liés au confinement. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer sur l'état des effectifs du CCAS. Les agents sont présents sur leur poste de travail selon une organisation que j'ai établie préalablement. Et il n'y a aucun manque de personnel. Ben voyons. Ensuite, de toute façon, je ne l'ai pas inventé. C'est la première à qui j'ai téléphoné qui me l'a dit. Mmh. Ensuite, vous voudrez bien noter que les mesures prises et que vous contestez sont strictement conformes aux directives données au niveau national et départemental dans l'intérêt de tous et plus particulièrement des personnes vulnérables. Parce que quand on a passé 70 ans, on est forcément vulnérable.
Oui.
Ça, c'est moi qui l'ajoute. Comme vous le savez certainement, il y a des cas avérés de Covid-19 au sein de la résidence. Ça, je le sais. Il y a même notre doyenne qui en est morte. Enfin, pour votre parfaite information, alors c'est là que vous allez bien m'écouter. Je vous précise que le CCAS n'est pas un simple bailleur. Il est gestionnaire de 3 résidences autonomie, établissements qui sont sous le statut des établissements sociaux et médico-sociaux, tout comme les EHPAD. Alors là, j'ai des doutes.
Elle assimile, pardon, en fait, la dame du centre communal d'action sociale, elle vous assimile à un EHPAD et donc elle vous dénie l'autonomie.
Alors qu'on n'a ni un médecin ni une infirmière, rien du tout.
Mmh.
Les gens qui n'ont pas de médecin, qui arrivent là, il y a les médecins, vous le savez, les médecins disparaissent de plus en plus, eh bien, on n'a pas accès à un médecin, on ne peut pas faire venir un médecin ici, personne ne se déplace.
Mmh.
Aussi, je vous invite à prendre la mesure du fonctionnement des résidences autonomie, notamment de l'article 1 du règlement qui stipule « La gestion administrative de la résidence est assurée par le CCAS de Creil. Le responsable de la résidence est chargé de résoudre toutes les questions concernant le bon fonctionnement de la résidence et le bien-être des résidents. » Qu'est-ce qu'on appelle le bien-être des résidents ?
Ben oui, vous n'avez pas la même vision de votre bien-être. Elle a une définition de votre bien-être, puis vous en avez une autre.
Absolument. L'apothéose. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez vous réorienter vers un bailleur public ou privé, mieux à même certainement de répondre à vos revendications.
Ah bah, allez voir ailleurs si vous y êtes, quoi.
Voilà. C'est moi qui commande. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas.
D'accord. Effectivement, c'est très aimable comme réponse.
C'est très agréable. Hein,
oui.
Très agréable. Mmh. Et alors, aujourd'hui, on avait un papier dans la boîte. Ça, pour faire des photocopies en couleur, ils ont le chic, hein. Cher résident, ou avec les E entre parenthèses, face au comportement, et c'est souligné, de non-respect des mesures gouvernementales par certains résidents, nous nous voyons dans l'obligation d'annuler l'animation au balcon, quiz musical du vendredi. Vous aurez le plaisir de retrouver l'animation au balcon dansons avec Laurence et Céline chaque lundi. Eh bien, ils n'ont rien compris, rien voulu comprendre, puisque c'est la présence au balcon qu'on refuse.
Oui,
donc,
oui.
On va faire pareil avec la danse, et puis on aura dans 8 ou 15 jours un papier disant que la danse est annulée. De toute façon, ça n'a jamais eu lieu puisqu'on refuse de se mettre au balcon.
C'est un mouvement de l'ensemble des... la majorité des résidentes et des résidents partagent vos positions ?
Il y a dans cette résidence, je suppose que c'est partout pareil, des gens qui vivent complètement indépendamment, qui s'occupent de rien ni de personne, qui vivent leur vie comme ça, dans leur coin, donc qui participent à rien. Il y a les deux corbeaux là qui se sont plaints qu'on les dérangeait, et à part ça, tout le reste, donc on était quand même bien 19, une vingtaine, on a signé à 19, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas pu contacter, qu'on n'a pas... Oui. Ça fait beaucoup par rapport à ce qui se présente d'habitude aux réunions, c'est quand même beaucoup.
Mmh. Il y a combien de personnes en tout dans la résidence ?
Alors, combien il y a de personnes ? Il y a 50 logements, mais il y en a plusieurs qui sont vides.
D'accord.
Il y a quelques personnes qui ont pu tout à fait toute leur tête, qui errent un peu, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, rien. Donc, je vous assure qu'une vingtaine de personnes, ça représente un bon nombre.
C'est la majorité, bon oui. C'est la majorité des personnes.
Mais compte tenu de tout ça, on ne peut rien faire. Alors moi, je leur ai dit aux animatrices qui passent là, parce que ça change, je leur ai dit, il y a au moins 3 semaines, je leur ai dit, trouvez-nous des patrons de masques. Celles qui veulent feront des masques chez elles, ça les occupera, puisque un jour, ils vont devenir obligatoires. Ah, ben oui, tiens, c'est une idée, j'y avais pas pensé, mais on n'a rien vu venir. C'est lamentable. Lamentable. D'ailleurs, je le précise, notre petite dame qui est décédée du virus, elle était confinée au moins 8 jours avant nous, et elle ne sortait pas, et ses enfants lui posaient ses courses sur son palier. Seulement, elle avait de l'aide à domicile. Et le virus, il est arrivé par l'aide à domicile.
Qui n'avait pas de protection
Oui, sa femme de ménage, elle a travaillé sans protection. Et c'est pas des gens qui sont nommés par le CCAS, c'est des associations, oui.
Ah, donc ce sont les associations qui n'ont pas fourni des,
alors,
des
protections. Alors, elles en ont eu, celle qui faisait sa toilette, elle était gantée, masquée. Mais la dame qui lui faisait le ménage, elle, je crois que c'était privé, elle venait pas d'une association. Ça faisait des années qu'elle travaillait pour elle. Voilà.
Et là, du coup, vous retrouvez à devoir faire vos listes de courses aux personnes du CCAS, c'est ça?
Je dis, mais il n'en est pas question. Je suis très alerte, je fais du jardin, je fais de la musique, je promène ma chienne matin et après-midi, et je fais mes courses. Il est hors de question que je dépende du CCAS pour recevoir mes courses.
Oui, parce que vous pouvez utiliser l'autre porte, ça ne vous pose pas de problème physique.
Voilà.
Okay.
Voilà. Alors, il y a des dames aussi qui commandent un Maximo depuis très longtemps.
Maximo.
Et voilà qu'il y a 2 jours, c'est une épicerie qui livre à domicile.
D'accord.
Épicerie surgelée, enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils font, un peu de tout. Moi, depuis que je suis là, j'ai toujours connu Maximo qui venait livrer ici. Et alors. Jusqu'à présent, depuis le confinement, Maximo livre, il prévient, ils mettent les paquets devant la porte des gens, la facture dans la boîte aux lettres, ils n'entrent pas dans les appartements, enfin, ils ne font pas très scrupuleusement. Eh bien, on leur a dit avant-hier que Maximo ne serait plus autorisé à entrer dans la maison. Il faudrait qu'ils viennent chercher leurs paquets à l'autre bout du bâtiment. Si ce n'est pas pour les obliger à passer par le CCAS, ça, dites-moi un peu ce que c'est. Le mardi, vous téléphonez, on m'a dit mercredi, je ne sais pas, vous donnez votre liste de courses. Et le vendredi, il y a un livreur, un chauffeur du CCAS qui arrive avec sa camionnette. Et ce livreur-là, qui est charmant au demeurant, il emporte les commissions à l'intérieur des appartements. Alors, il y a 2 poids, 2 mesures.
Ah oui, d'accord.
Hein? Non, mais alors, si ce n'est pas pour l'intérêt du CCAS, c'est pourquoi?
Oui, c'est-à-dire que le service de livraison choisi librement par les résidentes et les résidents est refusé. Et celui qui est proposé par le CCAS est.
Celui-là, il a le droit d'entrer dans les appartements.
Voilà, avec des conditions encore moins sûres que celles de Maximo.
Il n'a pas de masque, il n'a pas de gants. Moi, je l'ai vu tous les vendredis après-midi, je le vois, et voilà. D'accord. Il est charmant, mais bon.
D'accord. Et vous allez continuer à ferrailler avec le CCA, je suppose. Vous n'allez pas vous laisser.
Alors, je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
Oui.
Attendez, ma lettre. Ce matin, ils avaient placardé la réponse que je vous ai lue sur le panneau d'affichage de la résidence, mais sans avoir mis ma lettre.
Oui.
Alors, je n'ai rien dit à personne. Je l'ai défaite du panneau d'affichage et j'ai mis le billet d'humeur de Christine Juppé à la place qui dit que les vieux ne sont pas grabataires et que, allez, le haut, mais les vieux, on s'y confine. Enfin, j'ai mis une bêtise comme ça que j'avais vue. On va voir ce que ça va faire. C'est de la guérilla. Parce
oui.
que la guerre ouverte, on ne peut pas. Ils sont visiblement, ils s'arrangent pour faire leur coup tellement bas, tellement vicieux, que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
Et puis c'est une manière de concevoir les personnes âgées qui est complètement incroyable, c'est-à-dire à faire une...
Dépendante, complètement dépendante.
Dépendante, sans aucune...
Ils veulent nous rendre dépendants.
Voilà. De manière très généralisante, sans comprendre les situations particulières, qui changent les situations très diverses, etc. Quoi.
Le déconfinement va arriver, on n'aura pas résolu le problème, on n'y arrivera pas. je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Enfin, voilà.
Bah, du coup, je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne guérilla, alors.
On vous invite à nous envoyer des sons de renversement pour les prochaines. On va changer d'indicatif à chaque fois et puis on veut faire entendre plein de renversements, des symboliques, des réalistes, des renversements politiques, des renversements naturels. Et vous pouvez nous envoyer tout ça sur radiorenversé@intempestive.net. Intempestive.net, c'est là où on mettra l'émission au podcast après sa diffusion. Merci, enfin je sais pas quoi dire d'autre comme merci en fait. On est super contente en fait de commencer Radio Renversée et on vous donne rendez-vous. Oui, c'est irrégulier. Hein. On a décidé d'être irrégulier-dromadaire et donc d'émettre quand bon nous semble. Mais vous nous retrouverez, vous aurez les infos sur le site que je viens de citer. Et puis voilà, à la prochaine.
Et puis bon antivirus à tout le monde en attendant.
Yes.
On remercie toute l'équipe de Radio Renversée de nous avoir permis la diffusion de leur première émission. À bientôt sur Radio Galère dans Libre Débat.